VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir. Une nouvelle manifestation est prévue à Bamako, au Mali. La CDAO demande l'arrêt des manifs et la poursuite des négociations. Le président français Macron veut renforcer la sécurité des Français au Sahel après l'attaque au Niger. Le président Idriss Déby Itno, promu maréchal du Tchad pour les 60 ans de l'indépendance de son pays. Pandémie de coronavirus, la Russie annonce un premier vaccin, mais l'Allemagne émet des doutes. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord, le journal. Le M5-RFP organise ce mardi 11 août un grand rassemblement à la place de l'indépendance à Bamako. Ce lieu a été occupé toute la nuit par des jeunes manifestants qui ont été rejoints ce matin par d'autres militantes et militants. Au lendemain de la mise en place d'une nouvelle cour constitutionnelle, les manifestants exigent toujours la démission du président Ibeka et de son régime. Ce nouveau rassemblement est organisé malgré l'appel de la CDAO. Plus de détails avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
C'est sous un ciel nuageux, avec de fines pluies, que les militants du mouvement du 5 juin, rassemblement de forces patriotiques, sont sortis pour prendre part à ce quatrième rassemblement. Imam Oumarou Diarra, l'un des organisateurs du M5-RFP.
Et cette crise, quelque part, a même été entretenue par le président de la République. Il faut qu'on se le dise. Les engagements que lui, il a pris officiellement devant le très respecté l'imam Diko, s'il les avait appliqués, maintenant, il a trouvé que cette crise-là peut-être est finie.
Sous un parapluie de fortune, l'ancien travailleur de l'UCOMA, Yacouba Diarra, se veut optimiste.
Je reste optimiste par rapport à tout ce qui se passe dans mon pays. La Cour constitutionnelle, la Cour suprême, ça dit que c'est des hommes. C'est des hommes qui animent. Ça veut dire que c'est des hommes et femmes engagés et honnêtes qui doivent siéger d'une manière honnête pour bien faire leur arrêt.
Donc ça, c'est la place de l'indépendance. Le peuple veut se libérer de ce régime corrompu des Bika. Mais démocratiquement, on vous pousse à la faute.
Il faut signaler qu'avant ce rassemblement, dans la nuit du 10 au 11, 11 août à Kemparana, région de Ségou, cercle de sang. La brigade de la gendarmerie et la prison ont été ciblées. Il y a eu 2 morts, dont un gendarme et un surveillant de prison. 5 prisonniers se sont évadés. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Toute la communauté internationale sait qu'il y a des difficultés au Mali. Nous tentons d'aider le peuple malien à les résoudre, a déclaré l'envoyé spécial de la CDAO au Mali, l'ex-président du Nigeria, Goodluck Jonathan. Il n'y a donc plus lieu d'organiser continuellement des manifestations, a dit M. Jonathan, appelant à rester strictement dans le cadre du dialogue. L'ex-dirigeant nigérian est depuis lundi à Bamako, où il a assisté le même jour à la prestation des 9 membres de la Cour constitutionnelle. Au Tchad, le président Idriss Déby Itno a été officiellement élevé à la dignité de maréchal au cours d'une cérémonie à l'Assemblée nationale aujourd'hui, jour du 60e anniversaire de l'indépendance du pays. Le Parlement a accordé le titre de maréchal au président Déby après une vaste opération contre le groupe djihadiste Boko Haram en avril, qu'il avait lui-même dirigé. Dans le pays, les réactions sont mitigées, comme nous l'entendrons dans le reportage de notre correspondant en seconde partie de cette édition. Emmanuel Macron a annoncé que les mesures de sécurité des Français seront renforcées au Sahel après la mort dimanche de 8 personnes, dont 6 humanitaires français, dans une attaque au Niger. Nathalie Barge.
La décision de renforcer la sécurité des Français dans la région a été prise lors du Conseil de défense virtuel consacré aux conséquences judiciaires, militaires et diplomatiques de cette attaque. 6 Français et un Nigérien de l'ONG ACTID ainsi que leur guide ont été tués dimanche par des hommes armés à Kouré au sud-est de Niamey. Qualifiant l'attaque non revendiquée de manifestement terroriste, Emmanuel Macron a estimé qu'il était crucial de faire le point sur la situation au Niger et sur l'ensemble des dispositifs dans le Sahel. L'ONG Actid va suspendre temporairement ses activités, mais n'a aucune intention de quitter le Niger, a déclaré son président Frédéric de Saint-Cernin. Actid, agence d'aide à la coopération technique et au développement, travaille au Niger via un réseau de 200 salariés auprès de personnes déplacées par le conflit dans la zone dite des trois frontières.
Par ailleurs, le Premier ministre français Jean Castex a affirmé aujourd'hui que la France veillera à ne pas laisser impuni ce crime odieux. Le chef du gouvernement a évoqué une lâcheté difficilement descriptible, d'autant que les victimes sont des personnes civiles, jeunes, engagées dans l'humanitaire. Au Nigeria, 13 villageois ont été abattus par des hommes armés dans l'état de Benue, dans le centre du pays, à la suite d'un litige autour de la chefferie locale, selon la police. Les litiges entourant les droits fonciers ou l'accès à l'eau sont fréquents au Nigeria. En République démocratique du Congo, la mission des Nations Unies s'inquiète de l'escalade des violences intercommunautaires dans les territoires de Fizi, Mwenga et Uvira, dans la province du Sud Kivu. Au moins 128 morts ont été recensés entre février 2019 et juin 2020 dans cette région où plus de 110 000 personnes ont été déplacées par ces violences, selon la MONUSCO. En Éthiopie, au moins 6 personnes ont été tuées par les forces de l'ordre dans le sud du pays lors de manifestations en faveur de la création d'une nouvelle région semi-autonome. Les manifestations ont éclaté dimanche dans la zone Wolaita, à environ 300 km d'Addis Abeba, quand la police a arrêté des personnalités politiques de l'ethnie Wolaita faisant campagne pour la création d'un nouvel État régional.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Pandémie du Covid-19 dans le monde, le cap des 20 millions de cas est franchi, pendant que la Russie affirme avoir mis au point un vaccin. Les détails avec Mohamedou Oumfa.
L'université Johns Hopkins a recensé ce matin un peu plus de 20 millions de cas confirmés dans le monde et plus de 737 000 décès. Les États-Unis restent le pays le plus endeuillé avec plus de 163 000 décès devant le Brésil, le Mexique, le Royaume-Uni et l'Inde. La Russie, quatrième pays le plus touché avec plus de 895 000 personnes infectées, affirme avoir mis sur pied un vaccin. Le président Vladimir Poutine lui-même l'a annoncé, précisant que ce vaccin baptisé Sputnik V assure une immunité durable. Selon Kirill Dimitriev, le président du Fonds souverain qui a développé le dit vaccin, plus d'un milliard de doses ont été précommandées par 20 pays étrangers et la phase 3 des essais commence demain mercredi. Le début de la production industrielle est prévu en septembre. L'Organisation mondiale de la santé a réagi à l'annonce de la Russie, rappelant que la préqualification et l'homologation d'un vaccin passaient par des procédures rigoureuses. Selon l'OMS, 26 candidats vaccins sont actuellement au stade des essais cliniques, dont celui développé par les Russes.
Au Liban, aujourd'hui à 18h08, les cloches des églises ont retenti et les mosquées ont lancé simultanément l'appel à la prière à l'heure exacte à laquelle l'explosion du port de Beyrouth ravageait la capitale libanaise le 4 août. La déflagration a fait plus de 160 morts et 6 000 blessés et près de 300 000 sans-abri. À l'entrée du port, plusieurs centaines de personnes, pour la plupart vêtues de blanc, se sont rassemblées, brandissant des pancartes affichant chacune le nom d'une victime, sa nationalité et un cèdre vert, emblème du Liban. Elles se sont mises au garde à vous à l'heure exacte à laquelle s'est produite l'explosion qui a soufflé des quartiers entiers. La démission du gouvernement hier a ouvert la phase des négociations pour désigner la succession dans un pays où la colère gronde. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Les Libanais veulent toujours voir les responsables de l'explosion traduits en justice. Ils réclament des comptes pour la négligence de l'État. L'enquête se poursuit et une vingtaine de personnes ont été interpellées, des responsables, fonctionnaires et ingénieurs du port et de l'administration des douanes. Hier, le gouvernement de Hassan Diab a présenté sa démission. M. Diab était décrié depuis plusieurs mois pour son incapacité à répondre à la crise économique, une dépréciation historique de la livre libanaise, des pénuries de carburant et une hyperinflation. Il a pour sa part fustigé la classe politique traditionnelle qui l'a accusé d'être responsable de ses échecs. La France, mobilisée pour apporter des aides d'urgence, insiste pour que ces financements parviennent directement aux bénéficiaires. Le quotidien Al-Akhbar, proche du Hezbollah, assure que Washington, Riyad et Paris poussent pour la nomination de l'ancien ambassadeur Nawaf Salam à la tête d'un gouvernement neutre. Ce diplomate, qui a représenté son pays à l'ONU, est juge à la Cour internationale de justice.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Dangote Cement Cameroun a annoncé avoir vendu 687 000 tonnes de ciment au premier semestre 2020, soit une hausse de 15% par rapport à l'exercice précédent. La filiale du groupe nigérian rafle 38% de part du marché du ciment au Cameroun, qui est estimé à 1,8 million de tonnes sur cette période. L'usine de Douala a une capacité de production annuelle de près de 2 millions de tonnes de ciment. Le bénéfice de Total Côte d'Ivoire a enregistré une baisse de plus de 1100 milliards de francs CFA au terme de l'exercice 2019, qui représente une diminution de 9,58% par rapport au précédent. Lors d'une visite des sites touristiques près de Kinshasa ce week-end, le ministre du Tourisme congolais Yves Bounkoulou a constaté une reprise des activités, notamment au site Lola Yabonobo dans la commune de Mongafula. Monsieur Bounkoulou a rappelé l'ambition de faire de la RDC le premier hub de l'écotourisme au regard de sa biodiversité exceptionnelle, citant le bonobo menacé d'extinction.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Yakuba Ouedraogo. Bonsoir Yakuba.
Bonsoir à tous. La Fédération nigériane de football a déclaré qu'elle va verser 2 millions de dollars aux clubs et ligues pour amortir les effets du coronavirus. Ce fonds de secours est composé d'un million de dollars provenant du soutien de la Fédération internationale de football FIFA pour le redémarrage de la saison de football, 500 000 dollars de subventions de la FIFA pour le football féminin, 300 000 dollars de soutien de la CAF aux associations membres et de 200 000 dollars de sponsors de la Fédération nigériane. Les ligues bénéficiaires sont les trois premières divisions masculines ainsi que la première division féminine. Le début de la nouvelle saison est provisoirement fixé à octobre. En Zambie, Nkana a remporté le championnat de football, décrochant ainsi son 13e titre de champion national. Mais les géants de Kitwe ont dû attendre 3 jours pour connaître leur statut de champion après que Forest, deuxième, a remporté un appel de dernière minute pour le match perdu à domicile contre Zanaco, lequel match a été rejoué le 9 août. Et Forest s'est finalement contenté de la seconde place après un nul 0-0 à domicile. Ce résultat a permis à Nkana de préserver sa couronne face à Forest grâce à une meilleure différence de but. Les deux clubs ont terminé avec le même nombre de points, 50 en 27 matchs. Ce sacre de Nkana a mis fin à la domination de 3 ans de Zesco, 8 fois champion de Zambie. Et puis, l'attaquante malawite Tabitha Chiwanga a été désignée joueuse de l'année de la Ligue féminine chinoise après une saison 2019-2020 exceptionnelle à Jiangsu Suning. La joueuse de 24 ans a marqué 12 buts en 14 matchs de championnat, totalisant 38 réalisations toutes compétitions confondues. L'année dernière, pour sa première saison en Chine, elle a inscrit 31 buts toutes compétitions confondues, dont 17 en championnat après son arrivée à Jiangsu en provenance de la Suède. En Europa League, Manchester United du Nigérian Odion Ighalo et de l'Ivoirien Eric Bailly a eu besoin de la prolongation pour venir à bout 1-0 du FC Copenhague hier en quart de finale à Cologne. Les Red Devils affronteront Wolverhampton ou Séville en demi-finale dimanche à Duisbourg. Bousculé par le Bayer Leverkusen du Burkinabé Edmond Tapsoba, l'Inter Milan a su se tirer d'affaire pour se qualifier grâce à sa victoire 2-1. Les hommes d'Antonio Conte affronteront en demi dimanche le vainqueur du match entre les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk et les Suisses de Bâle. En basketball, 6 victoires en autant de matchs pour Phoenix depuis la reprise de la NBA. Les Suns ont battu Oklahoma City 128-101. Les Mavericks de Dallas ont remonté 12 points de retard à la bord du dernier carton pour l'emporter 122-114 sur le Utah Jazz. Les Los Angeles Lakers ont pris le dessus sur Denver 124-121. Miami s'est incliné devant Indiana 92-114 et Toronto a battu Milwaukee 114-106.
Merci à Kuba. Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg, toujours avec vous. Place au dossier du jour. L'envoyé spécial de la CDAO au Mali, Goodluck Jonathan, appelle le M5 à arrêter les manifestations pour continuer le dialogue. L'ex-président du Nigeria est à Bamako alors que l'opposition appelle à une nouvelle manifestation ce mardi. Pourquoi la crise perdure-t-elle malgré la nomination et la prestation de serment des 9 membres de la Cour constitutionnelle ? Pour une analyse, Abdourahmane Dia a joint à Bamako le directeur de publication du journal Mali Tribune, Alexis Calambri.
D'abord, pour les questions de gouvernance, le premier point de revendication, c'était par rapport à l'Assemblée nationale. Ensuite est venue cette question de la Cour constitutionnelle, puis une demande même de la démission du président de la République. Maintenant, ça a évolué. On a demandé que le Premier ministre démissionne, que l'Assemblée nationale soit revue au moins pour 31 députés. Donc, je crois que la crispation se trouve à ce niveau-là. Les uns veulent encore le départ du Premier ministre, ce qui fait que les positions ne se retrouvent pas jusqu'à présent.
Et pourtant, l'envoyé spécial de la CDAO, Goodluck Jonathan, appelle le M5 à arrêter les manifestations pour continuer le dialogue. Est-ce que le dialogue est toujours possible?
Le dialogue est possible. Il y a encore une chance à la paix. C'est vrai que les positions semblent tranchées, mais je pense que le gouvernement a évolué beaucoup, en ce sens que, oui, on a mis en place une nouvelle cour constitutionnelle, qui va, dans les jours à venir, revoir pour l'Assemblée nationale. Mais maintenant, le M5 a évolué en demandant la démission du président, disons du Premier ministre. Je pense que c'est le seul point d'achoppement, mais il est quand même heureux de constater qu'effectivement le dialogue n'est pas rompu, que oui, il y a eu une manifestation aujourd'hui, mais malgré tout, il y a encore une chance à la paix. L'envoyé spécial de la CDAO est même présentement à Bamako. Goodluck Jonathan a rencontré un peu les camps et il doit même se déplacer à l'intérieur du pays pour rencontrer le shérif de Nioro qui fait partie des protagonistes et qui est influent dans la décision.
Alors, est-ce que l'opposition ou le M5 considère la CDAO comme un médiateur crédible dans cette crise?
Malgré tout, c'est vrai que le M5 a des griefs contre la CDAO parce que la croyant partisane, mais oui, malgré tout, on l'écoute, on fait avec, surtout que les décisions qui sont actuellement appliquées sont celles édictées par la CDAO. Donc la CDAO continue, je pense, à avoir encore l'oreille des deux camps et reste encore un acteur majeur dans les négociations.
Alexis Calambri, directeur de publication du journal Mali Tribune.
VOA Afrique, 24h sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Aujourd'hui, 11 août, le Tchad célèbre le 60e anniversaire de son accession à l'indépendance. C'est aussi le jour symbolique où le président Idriss Déby Itno a été élevé à la dignité de maréchal du Tchad. La cérémonie s'est déroulée au Palais de la démocratie. Nous faisons le point avec André Komanjenga, notre correspondant à N'Djamena.
Plébiscité maréchal du Tchad par les députés pour services rendus à la nation et les nombreuses victoires militaires à l'intérieur et à l'extérieur du pays, le général Idriss Déby Itno a reçu des mains du grand maître de l'ordre national ce 11 août 2020 ses attributs régaliens. Âgé de 68 ans, il est le sixième président du Tchad et le tout premier à accéder à cette dignité nationale de maréchal. Il dédie cette distinction à tous ses frères d'armes.
Je considère que cette consécration n'est pas exclusivement celle du général d'armée Idriss Déby Itno. Que je suis, c'est le sacrifice, le courage des milliers de soldats, des sous-officiers et d'officiers qui sont ainsi distingués.
Docteur Sita Kiyobatina Bénin, juriste et ancien chercheur à l'École nationale d'administration du Tchad, estime qu'en élevant le chef de l'État au rang du maréchal, les députés ont fait une erreur politique.
Article 112 de la Constitution de la République cite entre autres les attributions de l'Assemblée nationale. Voter les lois, évaluer les politiques publiques, contrôler l'action gouvernementale et assurer l'exécution des lois. Et ajoute, ils peuvent voter des résolutions, mais en fonction de leur règlement intérieur. Vous allez à l'article 121 qui parle de règlement intérieur, cite normalement les affaires pour lesquelles les députés sont compétents. Et donc, il n'appartient pas aux députés d'introniser un chef de l'exécutif, maréchal ou empereur.
Par cette cérémonie, le Tchad rend la dignité que mérite le chef de guerre Idriss Déby Itno par le biais de ses représentants à l'Assemblée nationale, a déclaré à VOA Afrique le député de l'opposition Ousmane Chérif Kamdjan, vice-président du groupe parlementaire Les Démocrates.
Cet homme qui a la destinée de notre pays, il est capable de faire la paix, mais aussi de conduire une guerre salvatrice quand cela est nécessaire. Il est temps que les académies militaires du monde entier se planchent et étudient les faits et gestes et le parcours de ces grands militaires.
Pour Dr Sita Kiyombatina Beni, en acceptant cette distinction en plein exercice, le président viole la loi fondamentale et détruit la fête de l'indépendance.
Il est dans un mandat civil où il s'est mis en disponibilité. Mis en disponibilité, ça veut dire quoi? 1. Vous n'avez pas de salaire. 2. Vous n'avez pas droit à un grade. 3. Vous n'avez pas droit à un avancement. Or, le président de la République triche avec les textes, n'est-ce pas, civil? Il triche avec les textes militaires. C'est-à-dire, il viole la Constitution de la République du Tchad, dont il est le garant. Non seulement on s'élève, mais on détruit, n'est-ce pas, le 11 août. Dorénavant, qu'est-ce qu'on veut que les générations tchadiennes célèbrent? L'avènement des maréchals, le tout premier au Tchad?
Vu son parcours militaire, le général Déby mérite mieux que cet hommage national, estime Mohamed Zen Bada, secrétaire général du MPS, parti au pouvoir.
Je l'affirme avec force que le fait qu'Idriss Déby devienne maréchal, pour moi, c'est même peu. Mais ce qui s'est fait le 11 août, mais c'est dans l'ordre des choses, il n'est pas maréchal Idriss Déby Itno pour lui. Il est maréchal du Tchad.
Un homme, un panafricaniste, un digne fils, une icône, un guerrier émérite, un grand stratège militaire. Les qualificatifs et superlatifs n'ont pas manqué au président de l'Assemblée nationale. Dans son discours de 20 minutes environ, Haroun Kabadi n'a pas cessé de louer les grands mérites du tout nouveau maréchal. Un mot qu'il a prononcé 17 fois et 15 fois, c'est lui d'Idriss Déby Itno au pouvoir depuis 30 ans. André Godmadingar Njamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, Njamena. C'est 93.1 FM au Tchad. Au Gabon, depuis mars dernier, toutes les unités médicales du pays sont en alerte pour accueillir et soigner les personnes atteintes du Covid-19. Les hôpitaux publics ont été très vite débordés dans la prise en charge des victimes de la pandémie. Mais d'autres pathologies continuent de toucher les personnes dites économiquement faibles en situation de détresse. Un public ciblé par le SAMU social qui fait des consultations 24 heures sur 24. Le reportage de notre correspondant Ismaël Obiangze à Libreville.
Ici, le téléphone sonne sans arrêt. Téléconseillère parmi la dizaine que compte le centre d'appel du SAMU social, Ornella reçoit en moyenne une cinquantaine de coups de fil par heure. Il s'agit pour l'essentiel des personnes en situation de détresse.
On peut juger ce qui est urgent ou pas. Par exemple, pour le cas de la dame, elle a des douleurs qui durent depuis un certain temps. Je juge que le médecin peut avoir demain pour pouvoir consulter.
La vocation du SAMU social est de combler les carences des hôpitaux publics en cette période de Covid-19 et de soulager les malades désespérés qui ne trouvent plus les soins requis par leur état. Docteur Venceslas Seyaba est coordonnateur du SAMU social gabonais.
Pendant la période de pic de la pandémie Covid-19 au Gabon, nous avons été l'unique service de santé à irradier l'ensemble du pays, de telle sorte que le gouvernement a indiqué aux populations que pendant le confinement total, il était impérieux de joindre le SAMU social gabonais pour se faire soigner à la maison, puisqu'il était strictement interdit à qui que ce soit de sortir de chez soi après 18h, et nous avons relevé le glas.
Financé par l'État et la coopération française, ce SAMU à la gabonaise est une initiative rare de financement public de la santé des plus pauvres sur le continent. Malade depuis une semaine, Marlène, qui souffre des douleurs au bas-ventre, est sur le point d'être reçue.
Dans les hôpitaux, la consultation devient difficile à cause de la COVID-19. Donc on vient là où c'est disponible.
Le confinement du Grand Libreville, qui dure depuis 4 mois, a provoqué la fermeture de plusieurs services dans les hôpitaux publics. L'unique recours pour les personnes dites économiquement faibles reste le SAMU social, car les soins y sont gratuits. Darlene Guéma, médecin externe du SAMU social.
Avec ou sans assurance, ils sont reçus. Mais si on demande la pièce d'assurance, c'est pour les faciliter quand ils sortent d'ici. Parce qu'ici, c'est gratuit, mais en pharmacie, c'est pas gratuit.
Des consultations dont le rythme s'est accéléré entre mi-mars, date des premiers cas testés positifs au Gabon, et le début de ce mois d'août, le SAMU social enregistre déjà 70 000 consultations pour toute pathologie confondue, et son ambition est de prendre en charge 700 000 patients par an dans les prochaines années. Libreville, Ismaël Obianzé pour VO Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
L'Afrique du Sud continue d'assouplir les restrictions pour faire face au coronavirus. De leur côté, les techniciens et experts en santé publique élaborent des plans pour mieux protéger les quelques 14 millions de Sud-Africains qui utilisent le vaste réseau de minibus pour effectuer leurs déplacements quotidiens. Anita Powell fait le point depuis Johannesburg, le récit de Michel Joseph.
Le minibus est une bouée de sauvetage pour plus de 70% de la main-d'œuvre sud-africaine. Chaque fourgonnette ou camionnette peut transporter jusqu'à 14 passagers. Ce mode de transport informel est un pilier des grandes villes comme des zones rurales du pays. Mais les experts de la santé craignent aussi que le système constitue un terrain fertile pour le coronavirus en raison du nombre élevé d'usagers à bord. Une initiative à but non lucratif dirigée par l'homme d'affaires Andile Ramaphosa, fils aîné du président Cyril Ramaphosa, cherche à combler le fossé alors que le pays tente de relancer son économie après plus de 9 semaines de confinement strict.
Le confinement a été mis en place pour réduire la propagation du COVID-19 et cela a fonctionné parce que les gens n'allaient nulle part et c'était vraiment formidable. Cela a permis au gouvernement de se préparer. Lorsque nous avons insisté, en tant qu'entreprise et en tant que Sud-Africains, ouvrons cette économie sans nous préoccuper des déplacements domicile-travail, nous avons fondamentalement réduit à néant les bénéfices du confinement. Donc, si vous traitez avec les transports, parce que le Covid se propage dans le secteur des transports, vous pouvez en fait mettre en place un verrouillage artificiel. Nous avons vu cela et nous avons dit, super, nous devons trouver des solutions.
Le docteur Jenny Pfeiffer-Côté, fondatrice et directrice de l'ONG African Potential Foundation, explique que son équipe a mis au point plusieurs solutions, du plus simple au plus complexe.
Ce que nous recherchons est un système très similaire à ce qui est utilisé dans les ambulances, et c'est d'adapter un filtre à air qui permet un flux de l'air dans le taxi à l'aide de divers ventilateurs. Et l'air passe à travers le filtre où il est irradié en quelques secondes, puis retransmis dans le taxi avant d'être évacué hors du véhicule.
Son équipe envisage également un système d'alerte qui incite les passagers à ouvrir les fenêtres pour permettre à l'air frais de circuler. Des stations de désinfection que les passagers peuvent utiliser pour se laver les mains avant embarquement et un séparateur entre le conducteur et les passagers. Ces mesures, selon l'équipe de Ramaphosa, pourraient réduire le risque d'infection de 80%. À ce jour, sa société a équipé 5000 minibus de transport scolaire et 1000 taxis de banlieue pour un coût estimé à environ 340 000 dollars, des fonds en grande partie fournis par des donateurs. Andile Ramaphosa estime que la leçon a été brutale. mais en valait la peine.
Ce fut tout un périple de découverte pour nous, non-scientifiques, de réunir tous ces gens avec une seule chose à l'esprit. Nous devons faire en sorte que nos employés travaillent en toute sécurité et nous devons sauver des vies humaines.
Le docteur Pfeiffer Coté explique que son équipe cherche aussi à adapter le modèle à d'autres pays africains qui utilisent des systèmes de transport similaires pour les déplacements quotidiens de millions de personnes.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Josèle Morissin, Michel Joseph et Georges Léonard Sagno. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.